Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Les discriminations liées à l'origine ou à l'orientation sexuelle ont des effets indéniables sur les individus et sur leur santé psychique et physique. Elles entraînent une dévalorisation de l'image de soi et conduisent à mettre en danger sa santé. C'est exactement ce que vivent les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels dans leur quotidien. Vivre sa vie, sa sexualité, son intimité dans un climat de discrimination favorise le mal-être et l'anxiété, ce qui conduit à accentuer les prises de risques sexuels, notamment pour le VIH et les IST. C'est ce dont nous parlons ce matin, la discrimination des minorités sexuelles. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions à poser à notre invité qui sera au téléphone de la radio africaine, si vous avez des histoires à nous raconter sur la thématique, le standard est à votre disposition, 01 55 07 58 00. Justement, il est au téléphone de la radio africaine, notre invité c'est Ariel. Merci de nous rejoindre Ariel, vous êtes responsable de l'association Afrique Arc-en-Ciel. Merci d'avoir répondu à notre invité. Invitation. Alors tout d'abord, comment peut-on participer au changement de regard sur les minorités sexuelles? Ariel, bonjour.
Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est vrai que c'est un travail à long terme, hein, celui de participer au changement des mentalités. Mais un des éléments importants qui peut permettre de participer à ce changement de mentalité, c'est que toute personne doit savoir il n'y a pas de hiérarchie entre les orientations sexuelles. Que l'on soit homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, transsexuel, eh bien, chacun de nous a une sexualité et cette sexualité doit être regardée comme toutes les autres sexualités. Il faut donc déjà que tout le monde soit assez unanime, assez d'accord pour ne pas faire une hiérarchisation, pour ne pas faire une stratification au niveau des sexualités, oui. De comprendre que chacun de nous est né avec une sexualité, on n'a pas choisi sa sexualité, nous sommes nés chacun et chacune avec sa sexualité, et à partir de là, eh bien, on regarde toutes les sexualités de la même façon, et ça permet donc d'éviter les discriminations qui sont malheureusement, comme vous le disiez en introduction, des facteurs aggravants sur l'état de santé des uns et des autres.
Alors justement, parlons-en, quelles sont les conséquences, hein, en les grandes lignes, quelles sont les conséquences de ces regards, ces discriminations, ce rejet sur ces minorités sexuelles, Ariel?
Mais une des conséquences que je vois au quotidien auprès des personnes que j'accompagne, c'est que elles poussent ces personnes à se dévaloriser. Ouais. Les discriminations ont un impact considérable sur l'estime de soi. Mm-hmm. Dès lors qu'une personne n'ose même plus se regarder dans un miroir parce qu'elle estime qu'elle n'est même plus un être humain, eh bien vous pouvez comprendre par là qu'elle n'aura même plus le courage d'aller consulter un médecin, d'aller consulter un professionnel de la santé mentale, d'aller consulter tout simplement, parce qu'elle va tellement se replier sur elle-même qu'elle ne pourra plus aller à la source de l'information et même demander de l'aide. Et résultat des courses, cette personne-là, qui n'aura pas la bonne information, va donc se retrouver dans une situation de vulnérabilité liée à sa santé, parce qu'elle n'aura pas les bonnes informations.
Alors donc, allez-y Ariel.
Donc, elle va faire tout et n'importe quoi, puisqu'elle n'a pas la bonne information, puisqu'elle ne peut pas aller vers les professionnels de santé, par exemple, ou même se confier à une personne, parce qu'elle aura peur déjà elle-même, elle se dévalorise, parce que l'entourage, l'environnement, la société, eh bien, lui donne l'image qu'elle n'est pas un être humain, qu'elle n'est pas considérée. Donc, le fait de déjà se sous-estimer, eh bien, quelque chose d'assez difficile pour cette personne-là qui ne pourra donc pas faire la démarche d'aller vers le soin.
Dans l'Afro Baromètre Santé, c'est une enquête qui a été menée en 2016 avec l'association Afrique Avenir dans les lieux de sociabilité des populations afro-caribéennes. Les participants étaient invités à donner leur position sur l'homosexualité à travers une question utilisée dans l'étude de contexte de la sexualité en France. Cette question était à propos des rapports homosexuels. Diriez-vous plutôt que c'est une sexualité comme une autre, le signe d'une sexualité libérée, le signe d'un problème psychologique, une sexualité contre nature? Alors la moitié des répondants a déclaré que l'homosexualité était contre nature. Alors on est en France, les lois sont passées, aujourd'hui il y a le mariage pour tous. Comment expliquez-vous ce phénomène? Pourquoi nos sociétés ont du mal en fait à à respecter, on va dire, la sexualité de ces minorités?
Eh bien, pour avoir lu également les résultats de cette enquête, ouais, Afropromètre, effectivement, je suis tombé des nues en regardant notamment les pourcentages des personnes qui vivent sur le territoire français depuis plus de 30 ans. Hein, pour beaucoup, ce sont des personnes qui sont sur le territoire depuis très longtemps, et même, je pense qu'il doit y avoir des afro-descendants parmi, ouais, les personnes qui ont répondu à cette question. Mais ça montre bien le regard que dans la communauté noire, les gens ont encore sur l'homosexualité. Et je note d'ailleurs que cette expression contre nature revient, hein, c'est regardé comme quelque chose de contre nature, et cela montre le poids de la discrimination, le poids du rejet, le poids de cette culture, n'est-ce pas, qui fait une hiérarchisation sur les différentes sexualités, alors que tout le monde sait et tout le monde le reconnaît que l'homosexualité en Afrique, sur le continent, ou même ici, au sein des communautés de la diaspora africaine, est une réalité. Et ce n'est pas une réalité parce que les gens ont choisi d'être homosexuels, mais parce que les gens ont cette sexualité comme tout autre a sa sexualité, qu'elle soit hétéro, bi, ou une personne transgenre. Et donc, il faut beaucoup travailler sur ce poids-là, comme nous le disions au début. Il faut que les uns et les autres arrivent à reconnaître, à accepter que chacun de nous a une sexualité et qu'il n'y a pas une sexualité qui serait supérieure à celle d'une autre.
Alors, on lisait tout à l'heure ces discriminations, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin dans les rendez-vous santé. Ces discriminations ont un impact sur la santé de ces minorités sexuelles. Alors justement, on parle souvent de ce phénomène qui touche les hommes, mais il touche également les femmes, puisque les femmes, oui, ont beaucoup plus de mal à avouer qu'elles sont lesbiennes, par exemple, et à en oui, parler librement avec leur médecin, ce qui peut poser des soucis, puisque les médecins n'ont pas tous les éléments, en fait, pour traiter certaines pathologies. Alors,
exactement,
on va en parler dans un instant. Avant cela, vous voulez peut-être en dire un mot?
Oui, simplement rajouter que le fait d'être discriminé, effectivement, impacte considérablement sur la santé de la personne. Et donc, il faudrait que les uns et les autres comprennent que toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit, une discrimination faite à une femme, une discrimination faite à un homme, quelle que soit, je dirais même, son orientation sexuelle, impacte sur sa santé, et que donc nous devons agir.
Et comment, en fait, ce que je voulais savoir, Ariel, excusez-moi, mais oui, pourquoi les femmes ont plus de mal à se livrer, à dire qu'elles sont lesbiennes?
Eh bien, on dirait la même chose pour les hommes, mais les femmes ont du mal à le dire aussi parce qu'on vit dans un contexte environnemental qui ne leur permet pas de libérer la parole. Faut pas oublier qu'on est dans un monde encore où, malheureusement, la domination masculine, elle est toute présente.
Ouais.
Elle est toute présente. Et donc, c'est vrai que les femmes, des fois, n'ont pas voix au chapitre quand elles sont en face de cette majorité dominante masculine. Donc, il y a cet élément-là qui joue. Et puis, pour beaucoup de femmes qui arrivent, notamment les femmes africaines qui sont aussi lesbiennes et qui n'ont pas les moyens de leur existence, donc qui sont obligées de dépendre d'un tiers, du coup elles sont sous la domination des personnes qui vont les accueillir, des personnes qui vont les recevoir.
Ouais.
Et le regard aussi que la communauté noire a sur l'homosexualité féminine est tel que, en général, quand une femme dit qu'elle est lesbienne ou quand on découvre son homosexualité, généralement les gens pensent que c'est parce qu'elle a eu une déception amoureuse ou c'est parce que enfin, chacun ira de sa raison pour essayer de justifier l'homosexualité féminine de la femme. Et donc tous ces éléments font que les femmes sont obligées pour certaines de se replier entre elles. Et donc c'est une souffrance, le fait déjà de savoir que je ne serai pas entendu, je ne serai pas compris. Et donc, à partir de là, je risque encore d'être écrasé. Déjà que le fait de vivre dans une société où l'on sait que l'homosexualité est très mal vue, quand on fait partie d'une communauté qui a un regard hyper négatif, et vous évoquiez tantôt l'Afrobaromètre 2016 qui le montre,
mmh,
donc qui rejette cela, et bien tous ces éléments font que on n'est pas en capacité d'ouvrir la parole, on n'est pas en capacité de se confier, même si on fait qu'autour de soi, on a peut-être une oreille qui peut entendre, mais on reste assez, assez prudente pour les filles de pouvoir comme ça ouvrir la parole sur son orientation sexuelle.
Alors à ce sujet, justement, on va entendre Coraline Delebar, elle est psychologue, sexologue, elle était membre du comité de pilotage du plan national de lutte contre le VIH et les IST. Elle parle de l'invisibilité des femmes lesbiennes et des risques sur leur santé, on l'écoute.
Il existe une invisibilité sociale et intracommunautaire de la santé et notamment de la santé sexuelle des femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, qui peut être en lien avec plusieurs choses, c'est-à-dire le fait que, par exemple, la sexualité entre femmes soit perçue comme une sexualité exempte de pénétration, d'assertivité, de désir, puisque telle que la sexualité est construite, il faut forcément un principe masculin, dans cette sexualité. Étant donné qu'il n'y a pas de discours spécifique dans les brochures de prévention concernant la sexualité entre femmes et la santé sexuelle de ces femmes, on arrive à la construction sociale d'un sentiment d'immunité quant au VIH et aux autres IST. Sentiment d'immunité qui est intériorisé aussi bien par les chercheurs, les services de santé, les professionnels, mais aussi les femmes concernées. Donc le résultat, c'est que ça freine l'accès et le recours aux soins, au dépistage, à la prévention et à la prise en charge. Puisque le médecin, parfois, ne comprend pas, par exemple, pour les femmes lesbiennes, qu'il n'y ait pas de contraception, qu'il n'y ait pas d'utilisation de préservatifs, peut même traiter ces femmes d'inconscientes, alors que finalement, dans leur sexualité, elles n'en ont pas forcément besoin. Les conséquences sur la santé sont les conséquences qu'on va retrouver à peu près chez tous les publics minoritaires. Exposition aux violences, insultes, harcèlement, violences physiques, psychologiques, sexuelles, en lien avec leur orientation sexuelle. On va retrouver aussi des sentiments d'anxiété, de dépression, de mal-être très très forts. On va retrouver également des risques accrus de développer des addictions, tabac, alcool. On va retrouver aussi des maux psychosomatiques, type maux de tête, lombalgie, insomnie, hypertension artérielle. Donc on va avoir une surreprésentation de ces risques-là, en lien avec notamment l'homophobie, la lesbophobie intériorisée et le stress ressenti par les populations minoritaires.
Petite réaction, Ariel ?
Je suis entièrement d'accord avec Coraline, entièrement d'accord sur ce qu'elle dit. Effectivement, le fait de ne pas pouvoir donner la possibilité aux personnes, ou du moins voilà, de s'exprimer sur leur orientation sexuelle, ou même quand au niveau des professionnels de santé, eh bien, ils ne prennent pas le temps d'interroger la personne sur sa sexualité, ça fait que le diagnostic ne sera pas le bon. Et du coup, la personne aussi qui est en face ne pourra pas ouvrir la parole sur sa sexualité, donc pouvoir donner les outils nécessaires aux professionnels ou même à la personne qui l'accompagne de pouvoir l'aider au mieux possible. Résultat des courses, eh bien, la santé de la personne se trouve, et là on parle des femmes, se trouve sérieusement impactée.
Alors il y a également des cas de discrimination en consultation face à des médecins généralistes en fait pour ces personnes. Il y a aussi des médecins qui discriminent, Ariel ?
Tout à fait, il y a aussi des médecins qui discriminent, que ce soit les médecins généralistes, que ce soit certains spécialistes, pour parler des dentistes par exemple, qui ont pu faire comme ça, poser comme ça des actes de discrimination en l'encontre des personnes vivant avec le VIH au motif qu'elles ne pouvaient pas les soigner pour ne pas, eux, dentistes, contracter le virus, ce qui est une aberration. Et pour parler de la question qui nous préoccupe ce matin, effectivement, on a des cas de discrimination chez certains professionnels de santé, simplement parce que la personne leur dit, ou pour X Z raisons, ils ont réussi à découvrir que cette personne est homosexuelle, et là, sur le coup, ils refusent de soigner carrément la personne. Ou alors, s'ils essayent de rester un tout petit peu dans la déontologie, de soigner la personne, alors là, ils y vont avec une morale, pour ne pas dire une moralisation, qui fait que quand vous sortez de ce cabinet ou de ce box, de ce professionnel, vous n'avez plus jamais envie de revenir. Et on l'a noté d'ailleurs il y a un certain temps, et c'est ce qui a amené certaines associations à se battre pour qu'elles puissent avoir l'habilitation à pouvoir faire les tests rapides d'orientation diagnostique, parce qu'on avait remarqué que dans certains centres de dépistage, lorsque les personnes homosexuelles arrivaient pour se faire dépister, une fois on l'a vu, deux fois on l'a vu, et la troisième fois quand elle revient, vous encore, ben oui, moi encore. Estimez-vous heureux que je vienne prendre soin de ma santé plutôt que de me regarder comme si j'étais quelqu'un qui vous empêchait de faire votre boulot, bien au contraire. Et donc, ces regards-là, ces regards jugeants faisaient que les personnes ne repartaient plus dans les centres de dépistage, restaient chez elles. Ouais. Et bien sûr, le résultat, on le sait, c'est que voilà, il y avait une montée considérable chaque année de nouvelles contaminations à VIH dans notre pays, pour parler de la France. Donc, c'est pour dire que même au niveau des professionnels de santé, il y a un gros travail à faire là-dessus pour que les uns et les autres comprennent. Et qui plus est, quand on est professionnel de santé, on regarde la personne qui est devant soi, on interroge sa sexualité pour pouvoir faire un bon diagnostic et permettre à la personne d'être bien dans sa santé.
Alors, un mot aussi sur le cas des adolescents. On sait, hein, cette période de fragilité où justement les jeunes doivent se construire, se découvrir et vivre dans une société, un environnement familial qui ne les reconnaît plus. Alors, c'est important également de dire, attention, les adolescents qui vivent des discriminations sont fragilisés plus même que les adultes, même si on veut pas faire de comparaison, mais voilà. Alors, un mot sur cette période et ces adolescents.
C'est une période cruciale. C'est une période cruciale, tellement cruciale que lorsque le jeune adolescent n'est pas accompagné ou n'est pas écouté, c'est la porte ouverte à des choses difficiles qu'elle peut vivre. Cette période de construction est hyper importante. Et d'ailleurs, pour parler de cette période de construction, je la vois, puisque nous, au niveau d'Afrique Arc-en-Ciel, Paris-Île-de-France, nous accompagnons également les demandeurs et les demandeuses d'asile pour orientation sexuelle. C'est un travail que nous faisons aussi en lien, de façon complémentaire, avec une autre association qui est l'ARDIS. Et dans le travail de construction du récit de ces filles et de ces garçons qui ont traversé la Méditerranée et qui viennent demander la protection internationale à la France, lorsque ces garçons et ces filles vous racontent les histoires qu'elles ont vécues dans leur pays d'origine et pour lesquelles elles ont dû fuir pour venir ici, la partie concernant la prise de conscience de leur homosexualité est une partie dure et difficile. Et c'est en ce moment où on voit que ces personnes étaient vraiment dans un brouillard, dans des interrogations telles qu'elles ne savaient plus qui elles étaient elles-mêmes. Parce que d'un côté, elles avaient l'environnement familial, sociétal, qui leur faisait comprendre que ce sont des personnes qui elles sont bonnes pour le bûcher. Et de l'autre, elles-mêmes, elles étaient en difficulté intérieure à savoir mais qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas. Et donc, ça multipliait comme ça pour certains des situations tellement difficiles que j'ai encore en mémoire un jeune garçon qui m'a dit, il avait quoi, à cette époque, il avait 15-16 ans, tout ce qu'il voulait, c'était se suicider. Et même quand il a pris le Zodiac pour traverser, pour aller du côté de l'Espagne, il n'avait qu'une envie, disparaître en mer. Tellement que ce qu'il avait vécu dans son adolescence lui revenait à l'esprit. Ouais. Et on le voit également ici, en France, notamment en région parisienne, là où nous travaillons le plus, avec ces jeunes dans nos banlieues, qui sont en difficulté par rapport à ça. Déjà, la cité dans laquelle ils vivent ne leur permet pas de s'exprimer et de dire ou de vivre leur homosexualité, raison pour laquelle beaucoup de ces jeunes de nos banlieues de la région parisienne viennent à Paris pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'anonymat. Et il y a tout ce problème-là, il faut les accompagner. C'est pour cela que d'ailleurs certains parmi eux, nous les orientons vers les professionnels de la santé mentale, parce qu'il y a certains qui sont au bord du suicide, certains qui sont au bord de complètement de l'exclusion, qui veulent tout abandonner, qui ne veulent plus du tout aller à l'école. Une des raisons, c'est le décrochage scolaire de certains de nos jeunes. Il faut aller regarder à ce niveau-là aussi. Il faut aller regarder par là. Donc, il y a tous ces problèmes qui font que, quand cette phase critique de l'adolescence, de la construction de son identité sexuelle ou de son identité de genre n'est pas prise en compte par des professionnels et que le jeune garçon ne sait pas où aller, eh bien, c'est assez difficile pour lui et même pour la suite de pouvoir se construire en tant qu'individu.
Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter l'association Afrique Arc-en-Ciel Île-de-France, Ariel?
Alors, Afrique Arc-en-Ciel, le Paris de France, est une association qui est née en novembre 2007 et qui va donc fêter ses 12 ans le 27 juillet prochain. Mmh. C'est une association qui travaille donc sur comment vivre mon homosexualité tout en étant africain, antillais, caribéen, puisque c'est une association afro-caribéenne. Donc, c'est un gros travail que nous faisons sur le vécu de l'homosexualité. Et dans le vécu de l'homosexualité, nous commençons déjà par l'acceptation de soi, l'acceptation de son orientation sexuelle, parce que comme nous le disions tantôt, le premier endroit de l'homophobie, c'est dans nos familles. Le premier endroit de la discrimination, c'est dans nos familles. C'est dans nos familles où on entend des choses assez violentes liées à l'homosexualité. Et quand on est ado, qu'on grandit, que l'on découvre que l'on est attiré par une personne du même sexe, et on se rappelle en même temps ce que l'environnement sociétal familial a dit sur cette orientation sexuelle, eh bien, on est en proie à des difficultés personnelles, intérieures. Voilà. Donc, nous essayons de travailler sur ces questions-là. Il n'y a pas de réponse
toute faite.
Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Ouais. Donc, il nous est arrivé fréquemment de faire de la médiation dans certaines familles lorsque les enfants se sont retrouvés rejetés par les parents qui ont découvert, pour des raisons diverses et variées, l'homosexualité de leur enfant. Mmh. Donc, un travail sur le vécu de l'homosexualité, un travail sur la mobilisation. Tout à l'heure, Coraline, je crois, parlait de l'invisibilité des femmes. Eh bien, il y a cette question-là aussi chez les hommes, puisque voilà, il faut pouvoir rendre visible. Mais quand on parle de rendre visible l'homosexualité masculine, il ne s'agit pas de se taper la fiche, comme on dit. Il ne s'agit pas d'aller déranger les gens. Mais il s'agit de dire que nous sommes là, nous existons, et faites-nous aussi notre place dans la société. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus.
Oui.
Et puis, bien sûr, nous travaillons aussi sur l'accès aux droits. Donc, j'évoquais tantôt l'accompagnement des demandeurs d'asile. Il y a aussi un gros travail qui est fait au niveau de la santé sexuelle, puisque, comme vous le savez, les homosexuels comme les personnes migrantes sont considérés comme population clé au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Et il se trouve que dans Africa Arc-en-Ciel, Paris, de France, nous sommes à la fois noirs et homosexuels, donc doublement vulnérables. Donc, il y a un gros travail qui est fait au niveau de la santé sexuelle pour orienter les uns et les autres vers le soin afin de pouvoir faire les dépistages, enfin tous les check-ups qui permettent aux gens de bien se porter.
Alors, le numéro de téléphone de l'association Afrique Arc-en-Ciel, Île-de-France, c'est le 06 12 83 50 75. 06 12 83 50 75. Vous pourrez le retrouver sur le réseau de la radio africaine. Il y a aussi la ligne Azur au 0810 20 30 40. Appel anonyme, c'est le prix d'une communication locale. C'est un dispositif d'information et de soutien pour toute personne qui se pose des questions sur son orientation sexuelle ou son identité de genre. Et puis, on a parlé aussi tout à l'heure de l'ARDI, c'est l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour. L'association a pour objet de faire connaître les droits au séjour et à l'asile des personnes homosexuelles et transsexuelles étrangères. Leurs actions sont multiformes et peuvent ça peut être du conseil, de l'accompagnement, du suivi dans les différentes démarches administratives notamment. Alors, il reste 1 minute 30. Ariel, comment on pourrait conclure cette émission ?
Mais pour conclure cette émission, il faut juste rappeler aux auditrices, aux auditeurs et à tous ceux qui vont pouvoir suivre cette émission qu'il faut bannir, les discriminations, quelles qu'elles soient, et surtout les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. Toute discrimination est une injustice et toute discrimination impacte sur la santé de la personne parce qu'une discrimination conduit la personne à se dévaloriser, à se sous-estimer et du coup à se retirer, donc à s'exclure de la société. Et nous vivons dans une société aujourd'hui où il faut que tout le monde puisse trouver sa place, quelle qu'elle soit, mais chacun doit pouvoir être capable de laisser à l'autre la possibilité d'exister, la possibilité de vivre et la possibilité de prendre soin de sa santé.
Merci beaucoup Ariel, je rappelle que vous êtes responsable de l'association Afrique Arc-en-Ciel. Toutes les informations, les coordonnées et le podcast de cette émission seront disponibles sur les réseaux de la radio africaine dans quelques minutes. Merci beaucoup Ariel d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
On vous dit à très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1. Ambiance Africa arrive dans un instant, c'est juste après la pause, bougez pas.